Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémiques et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Jaurès n'était pas un marxiste, c'est vrai, mais c'est un vrai communiste. Il était humaniste, un homme qui se bat pour les exploiter. Toute son action, c'est de se mettre du côté de la classe ouvrière, du côté des travailleurs, des gens qui sont exploités, qui souffrent. Il est donc logiquement anticapitaliste, anti-bourgeois. Il se bat avec les ouvriers d'Alès, il se bat avec tous les autres ouvriers en France. Et dans le Parti Socialiste, il est une voix qui compte énormément. Il est directeur de l'Humanité. Rêve d'une société meilleure, plus juste, plus équitable, sans exploitation de l'homme par l'homme, etc. C'est un socialiste, Jaurès, très conséquent. Parce qu'il allait jusqu'au bout de ses idées, Jaurès, contrairement à ces gens qui vont ensuite après participer à des gouvernements et faire des politiques qui sont pas conformes aux intérêts des travailleurs. Jaurès, un homme comme il en faudrait aujourd'hui, quoi.
Jaurès était un authentique homme de gauche et c'est bien pour cette raison qu'il a été assassiné à la veille de 14-18. Salut, c'est JBD, c'est La Voix Off avec notre ami André, le prof d'histoire géo. Premier épisode d'une série autour d'un événement politique majeur, le congrès de Tours de 1920, qui accouchera du Parti communiste français, puisque c'est lors du congrès de Tours que survient une scission de la SFIO, le Parti socialiste d'alors. Et l'un des éléments déclencheurs de cette scission, c'est la trahison d'une partie des socialistes qui collaborent avec les bourgeois pour la première grande boucherie mondiale de 14-18. Mais elle remonte à loin, cette dissension entre socialistes révolutionnaires purs et durs, opposés aux socialistes moins radicaux, qu'on appelle les réformistes, et qui, eux, ont renoncé à la révolution pour collaborer avec la bourgeoisie. Il y a discorde dès la création des divers courants se revendiquant du socialisme, et pour expliquer la scission du congrès de Tours de 1920, il nous faut aujourd'hui survoler le 19e siècle avec André. Salut André.
Salut à tous.
XIXe siècle, des doctrines anarchistes et socialistes éclosent dans la classe ouvrière qui apparaît et se développe avec l'essor de la révolution industrielle. Il y a les socialistes révolutionnaires et des socialistes réformistes. 1848, Marx et Engels publient le Manifeste du Parti communiste. Le Capital sort en 1867. Comme les anarchistes, les communistes aspirent à une révolution vers une société socialiste. Mais contrairement aux anarchistes qui prônent l'autogestion et l'abolition de toute autorité, les communistes pensent qu'on ne peut pas se passer de l'État. Autre date, 1864, qui voit la création de la première association internationale des travailleurs, André.
C'est un enfant venu au monde en France et mis en nourrice à Londres. En effet, c'est à Londres qu'a lieu le premier congrès, mais en fait, ce sont beaucoup les socialistes français qui en sont à l'origine, même si il va y avoir un homme qui va jouer un rôle important dans cette association, c'est Marx. D'ailleurs, les choses ne sont pas claires. En 1864, cette Association internationale des travailleurs est constituée de gens extrêmement hétéroclites. Et ça se passe en Angleterre, où existe un puissant mouvement ouvrier qui sont les Trade Unions, les TUC. Trade Unions Corporation.
C'est un peu pour l'aristocratie ouvrière, ça.
Oui, c'est un syndicalisme très différent du syndicalisme français. Et un syndicalisme basé à cette époque-là, en tout cas uniquement sur les ouvriers qualifiés, par corps de métier. Pas par fédération d'industrie, mais par corps de métier. Les mécaniciens, les charpentiers, etc. etc. Et c'est un mouvement qui a des revendications économiques extrêmement fortes et des moyens de pression, la grève, etc. Mais c'est pas un mouvement révolutionnaire, c'est des gens qui sont très éloignés du socialisme. En fait, ils sont assez indifférents, à savoir qu'ils possèdent le capital. Eux se battent contre les gens du capital pour avoir de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail, mais d'abord, ils n'éprouvent pas le besoin de s'allier au reste du prolétariat, qu'ils méprisent éventuellement. Et pour eux, le but final d'une association internationale de travailleurs visant à l'établissement du socialisme mondial, ça leur est étranger. D'ailleurs, ils seront hostiles, hein, très vite hostiles à ce qui se passe. En France, c'est pareil, le syndicalisme est encore, à cette époque-là, assez dominé par un courant proudhonien, influencé par Proudhon, c'est-à-dire mutualiste, coopératif, mais ne revendiquant pas une prise de pouvoir assez éloignée de l'idée de prendre le pouvoir et d'établir un pouvoir ouvrier socialiste. Et puis, il va y avoir assez vite dans cette internationale l'action de Bakounine, de Michel Bakounine, c'est-à-dire un anarchiste russe qui va apporter un élément de division, de discussion âpre avec Marx et les marxistes. Pour les anarchistes, la prise du pouvoir, c'est totalement exclu. Ils n'en veulent pas du pouvoir. Ils veulent la fin de tous les pouvoirs, de tous les États, de toutes les institutions. Ils se rapprochent en cela des proudhoniens, c'est-à-dire que les ouvriers s'organisent à la base et organisent des productions, des mutuelles, du crédit social, etc., et sans se préoccuper de savoir qui gouverne en quelque sorte et qui a le pouvoir.
Proudhon aussi est un anarchiste.
Non, c'est pas un anarchiste. Mais ses idées, assez vite, se conjuguent avec l'anarchisme. Il y a beaucoup de parenté dans le refus de la prise de pouvoir et de la remise en cause des rapports sociaux de production. Il faut dire que le proudhonisme naît en France dans un milieu encore très dominé par l'artisanat. D'ailleurs, le proudhonisme va s'affaiblir par rapport au socialisme qui va devenir dominant au fur et à mesure que la France va s'industrialiser en grosses unités de production. Les grèves, les trucs comme ça, dans les années 60, 70, les grandes grèves qui vont s'organiser dans l'industrie, etc., vont peu à peu renvoyer le proudhonisme un petit peu dans le passé.
Proudhon, la propriété, c'est le vol, c'est lui. 1840, c'est une pensée qui est légèrement antérieure au marxisme et au communisme.
Bien sûr, mais que prônent les proudhoniens, comme Tolin par exemple? Et l'émancipation ouvrière par la généralisation du mutualisme et un système de crédit gratuit, mutuel. Alors on ne détruit pas la société. La société reste, on l'aménage. On généralise les coopératives ouvrières, on généralise le mutualisme sans se préoccuper de ce qui se passe en haut. Le problème, c'est que, en même temps que se développe cette idéologie, assez adaptée à un travail artisanal ou traditionnel, se développe une grande industrie avec de gros capitaux. La théorie de Proudhon ne colle pas du tout avec ce type de capitalisme contre lequel se battent les premiers grands syndicats et les socialistes.
Républicain, socialiste, compagnon radical, ultra, révolutionnaire, anarchiste, etc., etc. Aussi je vais dans tous les métingues, jamais je ne rate une réunion. Et je passe mon temps chez les manzingues, où se prêche la révolution.
Le mouvement anarchiste en France va quand même se diviser pas mal. Il va y avoir, moi je dirais, deux types d'anarchisme. Il va y avoir un anarchisme qui s'investit dans le mouvement ouvrier, syndical, qui restera présent, toujours, même s'il n'est pas constitué des fois. Mais il y a des anarchistes qui sont dans les syndicats. Mais il y a aussi un anarchisme, disons, d'intellectuels, très minoritaire, les cercles Proudhon, des cercles comme ça, qui vont rester quand même sorte de laboratoire de pensée, avec assez peu d'action, il faut dire ce qui est, très peu d'incidence, d'impact sur la politique et la société. Ça reste un idéal politique très très minoritaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur. L'anarchisme ne pénètre pas à l'intérieur des masses à partir de ce moment-là, comme il a pu le faire en Espagne ou même aux États-Unis, où il y a un puissant mouvement ouvrier dont une partie est très influencée par l'anarcho-syndicalisme et l'anarchisme. Mais en France, non. En plus de ça, il va y avoir un débat qui va apparaître à l'intérieur du Parti Socialiste sur l'autoritarisme et pas l'autoritarisme. Par exemple, lorsqu'il faudra accepter les thèses de Lénine ou les refuser, les gens qui refusent les thèses de Lénine, une partie de ces gens-là disent « mais nous ne voulons pas d'autoritarisme à l'intérieur ou du syndicat ou du parti socialiste, on ne veut pas de consignes ». Et bien sûr, les anarchistes, ils sont à fond dans ce type d'argument. On ne veut pas de consignes qui viennent d'en haut, on est maître chez nous, on fait ce qu'on veut. Donc l'anarchisme continue comme mode de pensée anti-autorité, anti-chef, quoi, anti-gouvernement, anti-pouvoir, anti-pouvoir, voilà. Mais ça reste de manière très ténue, quand même. On va faire un bond en avant, si vous voulez, l'affaire LIP.
Donc la lutte des salariés de LIP qui, devant la menace de licenciement, recourent à l'appropriation et à l'autogestion de leur usine, c'est entre les années 1973 et 1977.
Ça se passe dans le Jura, où le proudhonisme a eu une grande influence longtemps, et puis dans les petites industries horlogères, tourneries de bois, etc. du Jura. Cette entreprise, au moment où les patrons veulent la liquider, les ouvriers s'en emparent. Ils font une coopérative, ce sont des idées qui sont des idées mutualistes très typiques d'un certain anarcho-syndicalisme. À l'intérieur d'une partie d'un pays capitaliste, une enclave socialiste, c'est pas possible. Surtout, le pouvoir en place a une loi, des juges, des policiers pour la faire respecter, et il est difficile de se mettre hors la loi dans un petit îlot, en quelque sorte, de socialisme à l'intérieur d'un océan de rapports sociaux capitalistes. Les LIP ont été condamnés juridiquement. Ou alors il aurait fallu faire appel au reste de la classe ouvrière. Et dans ces cas-là, c'est plus un schéma anarchiste, c'est un schéma socialiste révolutionnaire. C'était quand même vachement sympathique, LIP. C'était l'idée que la classe ouvrière peut s'emparer, possède ses moyens de production, peut les mettre en œuvre elle-même, n'a pas besoin de patronat ni d'actionnaire. Simplement, pour arriver à cette situation-là, il faut une stratégie politique. C'est ce qui sépare les communistes des anarchistes. Le but est le même. Il s'agit que les travailleurs soient maîtres de leur outil de production, de leur travail, qu'il n'y ait plus de rapport de salaire. Mais pour ça, il faut maîtriser la loi, le législatif, etc., le gouvernement, etc., et empêcher le capitalisme par l'intermédiaire de ces instruments, honnis par les anarchistes, mais qui existent. Bon.
Après cette incursion au XXe siècle, retour aux luttes ouvrières de la France de la fin du XIXe siècle.
En fait, il y a des grèves qui vont se développer un peu partout. Déjà un premier syndicalisme déjà révolutionnaire en France, extrêmement actif. Le socialisme, lui, se mettra un peu plus longtemps à se développer, mais il va finir par se développer, évidemment. Les anarchistes, ils vont imprégner des classes ouvrières dans des pays qui sont encore assez peu développés, comme l'Espagne ou l'Italie, surtout l'Espagne. Mais en revanche, dans les autres pays industriels, l'anarchisme, comme théorie de transformation sociale, va régresser, énormément régresser au profit du combat socialiste et du syndicalisme révolutionnaire aussi. Même si le syndicalisme révolutionnaire est encore imprégné d'anarchisme, il n'en reste pas moins que l'anarchisme va régresser. Alors en Allemagne, c'est un peu différent, encore différent. En fait, chaque pays va développer des forces socialistes et syndicalistes différentes. En Allemagne, c'est un pays qui s'industrialise rapidement et fortement. Il va y avoir de très grosses industries. Il va y avoir un syndicalisme qui va se développer considérablement, un syndicalisme organisé, en quelque sorte. Et quant au socialisme, il va se créer un parti social-démocrate. Alors, il y a deux grandes tendances dans ce parti socialiste allemand. Il y a une tendance possibiliste, comme on dit en France, c'est-à-dire réformiste. Ce sont les Lassalliens, du nom du dirigeant socialiste allemand, Lassalle. En gros, Lassalle dit, on peut s'arranger avec le pouvoir, on négocie. Et comme ça, on peut avoir des avantages, des réformes, etc. On discute même avec Bismarck. C'est sous Bismarck, en 1880, des poussières, que va s'établir le premier système de sécurité sociale dans le monde. C'est le gouvernement de Bismarck qui va établir ça dans les grandes entreprises, cotisations patronales et cotisations ouvrières. Bien sûr, il s'agit pour Bismarck de neutraliser un peu le mouvement socialiste allemand. Et d'ailleurs, il y parvient quand même un peu. Alors, il va se créer un parti ouvrier social-démocrate en Allemagne en 1869. Les deux tendances, c'est-à-dire la tendance marxiste et la tendance de Lassalle, vont se réunir. Les deux grands leaders socialiste marxiste, c'est Wilhelm Liebknecht, c'est le père de Karl Liebknecht, et Auguste Bebel. Le parti social-démocrate allemand va être très puissant. Très très puissant. À la veille de la guerre, il a de nombreux députés, il a des millions de votants, et il s'appuie sur un syndicalisme très très puissant, qui a déjà toute une bureaucratie, tu vois, des apparatchiks, un appareil à sa disposition, et il est réformiste. C'est en Allemagne que naît un puissant mouvement révisionniste à l'intérieur du Parti Socialiste, c'est celui de Bernstein. Alors Bernstein, il va s'exprimer dans les années 1880. C'est un socialiste allemand qui dit le marxisme est complètement dépassé. Il n'est même pas pour une révision du marxisme, il est pour dégager le marxisme. Il est absolument en contre tous les trucs essentiels du marxisme. Hein. Lutte des classes, prise du pouvoir, etc. Appropriation des moyens de production, tout ça. Non. C'est en quelque sorte lui qui va établir le révisionnisme, le réformisme social-démocratie allemande. Il n'est pas contre le colonialisme. De sa part, il n'y a aucune dénonciation de l'impérialisme, alors même qu'il y a déjà à cette époque-là une dénonciation de l'impérialisme colonial et autres. Lui, non. Donc vous voyez que déjà dans le mouvement allemand, mais en France c'est également un fait, il y a deux grands courants dans le mouvement socialiste. Un courant réformiste et un courant qui reste révolutionnaire dans ses buts, dans sa finalité. Pour Bernstein, la révolution, c'est un mythe et une catastrophe. C'est une catastrophe. Il ne faut absolument pas recourir à la révolution. Pas question d'arracher le pouvoir aux dirigeants capitalistes. Il faut arracher des améliorations progressives, économiques et politiques, de façon à améliorer la condition de la classe ouvrière. Et petit à petit, éventuellement, on va aller vers le socialisme, comme ça, par épuisement, en quelque sorte, du capitalisme, on va arriver au socialisme. Donc il y a une gauche dans le Parti social-démocrate allemand et une droite est très très nettement marquée qui va se développer dès le début de la guerre. Bon, en France aussi il y a des courants. D'ailleurs le Parti socialiste français va se constituer assez tard en fin de compte. Hein. Alors 1869, vous voyez pour le Parti socialiste allemand, pour le Parti socialiste français c'est 1905. Le Parti travailliste anglais aussi sera très tardif, hein, et c'est autour des années 1900 qu'il se constitue le Parti socialiste anglais. De même, le Parti socialiste anglais, qui va devenir le Labour Party, enfin, il était réformiste et très modéré, très à droite, hein, et pas du tout révolutionnaire. Hein, bien. Revenons en France. En 1905, le Parti socialiste naît de la fusion de quatre partis socialistes différents, très différents même. Il y a un parti marxiste et il y a des partis réformistes à des degrés divers. Par exemple, il y a de graves divergences sur la possibilité pour un socialiste de participer à un gouvernement bourgeois, comme ministre. Déjà, il y a des gens qui sont contre la participation aux élections législatives pour lesquelles les députés, c'est pas une bonne chose. Il faut rester sur le domaine de l'opposition avec les partis bourgeois. Et parmi ceux qui, en revanche, sont pour leur participation au Parlement, peut-on ou non faire des alliances avec les partis bourgeois? Peut-on devenir ministre socialiste, etc.? Il y a des gens qui sont très contre. Hein. Parce qu'il y a des ministres socialistes avant 1914. Mirand, par exemple, c'est un socialiste, il devient ministre. Il y a des gens qui sont absolument contre et qui pensent que c'est une trahison, déjà. On trahit sa classe, hein, et on collabore avec un gouvernement bourgeois et qui, de toute évidence, ne peut pas faire la politique des travailleurs. D'ailleurs, le syndicalisme français se constitue, la CGT, naît, tournant à la fin des années 1890, 1896, et il va y avoir un congrès très important de la CGT, qui est le congrès d'Amiens en 1906, et à ce congrès, la CGT définit une ligne syndicale qui sera la sienne pendant longtemps. La ligne syndicale est la suivante. Le syndicalisme est totalement indépendant de la politique, est totalement indépendant en particulier du Parti Socialiste, il ne veut rien avoir, il n'est pas une courroie de transmission du Parti Socialiste, il ne veut pas l'être, donc il est indépendant. Ensuite, le syndicat se définit comme étant une organisation qui défend les intérêts économiques de ses adhérents, et aussi se bat pour une société meilleure où il n'y aurait plus l'exploitation capitaliste. Sans trop définir les moyens, les tactiques, etc. de la prise du pouvoir, ce syndicalisme se définit comme révolutionnaire.
La CGT, si elle a été le fer de lance syndical du Parti communiste pendant des décennies, elle est créée par des anarcho-syndicalistes, essentiellement.
Alors, il y a des anarcho-syndicalistes avant 1914, avant 1920, dans la CGT. C'est un courant qui existera d'ailleurs toujours. Hein. Moi, j'ai connu des fédérations de dockers, ou du livre, par exemple, qui sont des fédérations très marquées par l'anarcho-syndicalisme. « J'ai évoqué tout à l'heure la Première Internationale, qui est née en 1864. Elle va s'achever, en gros, au début des années 70. Il n'y a plus de Première Internationale, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe plus de désir de faire une association internationale de travailleurs, mais disons qu'elle n'existe plus dans les faits, quoi. Elle se dissout à New York, d'ailleurs, hein, où elle s'est réfugiée sur l'indication de Marx et d'Engels. C'est Marx et Engels qui ont dépaysé la Première Internationale à New York, mais c'est là qu'elle achève sa vie, parce qu'elle ne correspond plus aux besoins. Elle va renaître, les artisans principaux de cette renaissance sont les sociaux-démocrates allemands. Et cette Seconde Internationale, qui regroupe des partis socialistes extrêmement puissants, hein, et des millions d'adhérents, hein, à travers le monde, cette Seconde Internationale est quand même marquée par un courant majoritairement réformiste, très dominé par la social-démocratie allemande, qui pèse d'un poids considérable dans cette Seconde Internationale. Cette Seconde Internationale se crée au Congrès de Paris en 1889, avec tous les partis socialistes. Alors en France, il n'y a pas encore de parti socialiste unifié. Ce sont des petits partis qui vont adhérer à la Seconde Internationale. Mais en 1905, lorsque est unifié le Parti Socialiste Français, le Parti Socialiste Français se crée sous le nom de SFIO, c'est-à-dire Section Française de l'Internationale Ouvrière, qui adhère à la Seconde Internationale, et à un des partis socialistes de la Seconde Internationale. Alors cette Seconde Internationale, pour revenir à elle, elle est confrontée assez vite au problème des dangers de guerre. Pas seulement, c'est pas la seule question qui est débattue, mais dans l'explication, c'est important d'évoquer essentiellement ça. À la veille, on va dire, du grand conflit mondial, où en est le mouvement socialiste et le mouvement socialiste international? D'abord, les dangers de guerre vont quand même obséder, à partir des années, on va dire, 1900-1908, le danger de guerre est prégnant déjà. Il y a des discours de Jaurès, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Pour lui, c'est le capitalisme impérialiste, le gros capitalisme, conquérant, colonial, porte en lui la violence et la guerre.
Elle aurait pu démarrer plus tôt qu'en 1914, d'ailleurs, cette Première Guerre mondiale. On pensera à l'incident de Fashoda en Afrique, hein, où les Anglais et les Français mentent de se foutre sur la gueule. Il y a aussi
le Maroc, 1910-1911. Le Maroc est un ancien vieux royaume musulman, etc. Mais la France est très intéressée, évidemment. Elle possède déjà l'Algérie et puis la Tunisie. Enfin, quoique la Tunisie est un protectorat, c'est pas une colonie, mais enfin c'est tout comme. Et puis la France voudrait bien mettre la main sur le Maroc pour terminer sa conquête du Maghreb.
Les Allemands aussi.
Mais oui, les Allemands aussi. Ils arrivent tard, les Allemands, ils arrivent tard sur la conquête impérialiste. Et alors qu'ils ont une industrie en pleine expansion, etc., ils n'ont pas le domaine colonial qu'ils pensent devoir leur revenir, quoi. Ils disent, mais et nous, alors, le gâteau, il va y avoir même une conférence à Berlin pour essayer de se rediviser le gâteau africain, le gâteau mondial, etc. Mais ils arrivent tard, les Allemands. Ils sont privés, ils sont très privés de ça. Et il se développe en Allemagne, à cette époque-là, le pan-germanisme, une idéologie d'expansion de l'Allemagne et de constitution d'une grande Allemagne qui domine le centre de l'Europe et qui se projette en Afrique, en Asie, etc. Ils ont déjà fait des cartes, hein, pour se partager le truc. Donc il y a une idéologie qui court dans les classes dirigeantes allemandes et qui est une idéologie de la conquête et de l'expansion. Et c'est un pays militaire, en plus, l'Allemagne. C'est pas seulement un pays industriel, c'est un pays qui a forgé une armée, des moyens militaires tout à fait considérables. Bon, bah, on sait que quand on fait des armements, hein, c'est pour s'en servir, hein. C'est pas pour les laisser dans l'entrepôt. Voilà. Quant à la France et à l'Angleterre, ils sont pas en reste. La France s'est taillée un énorme empire colonial, bien supérieur à ses ressources industrielles, soit dit en passant, parce que la France s'est fait un petit peu dépasser par l'Allemagne, etc. Quant à l'Angleterre, ils ont un immense empire à travers les mers, etc., et de l'Amérique jusqu'à l'Asie, etc. Mais comme on dit à l'époque, le soleil ne se couche jamais sur l'empire britannique, hein. Bon, les États-Unis n'ont pas officiellement de colonies, mais tout le monde sait que les États-Unis ont mis la main déjà à cette époque-là, la veille de 14-18, sur tout le continent sud-américain et centre-américain. Les États-Unis ont un empire colonial qui ne dit pas son nom, évidemment, mais où interviennent en permanence les Marines, typiques d'une force d'intervention coloniale. Les Russes de l'empire tsariste aussi ont une politique coloniale dans le Turkestan, dans le centre du continent eurasiatique et un peu partout, hein. Les Russes dominent la Finlande, les pays baltes. C'est un empire colonial à leur porte. Le Japon, veut se lancer aussi. Il a déjà mis la main sur la Mandchourie et sur la Corée. Il voudrait bien s'emparer en fait d'une bonne partie de la Chine et du sud-est asiatique pour faire une sphère de coprospérité, comme ils appelleront leur empire colonial. Donc on est une période d'impérialisme, c'est-à-dire de développement extrême du grand capitalisme, traduit par une domination coloniale ou semi-coloniale ou impériale, peu importe les formes juridiques que ça prend. C'est une domination par les grands pays industrialisés d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale, du reste du monde. Et bien sûr, ces impérialismes rentrent en concurrence.
Impérialisme, stade suprême du capitalisme, où Lénine analyse ça très bien.
Oui.
D'ailleurs, c'est assez frappant de voir que ce petit fascicule qui se lit assez bien pourrait d'ailleurs très bien nous servir à décrypter le monde d'aujourd'hui. Hein. C'est terrible, on pense qu'on veut de Lénine, mais son analyse d'il y a presque un siècle est toujours valide.
Bien sûr, il y a une description et une analyse du mécanisme de passage du capitalisme au capitalisme financier, puis du capitalisme financier à l'impérialisme, hein, avec des chiffres, avec des tableaux. Hein. Lénine est un homme très précis, c'est très convaincant. Il y a une autre personne du mouvement socialiste qui va également théoriser sur l'impérialisme, c'est Rosa Luxemburg. Hein, c'est une Polonaise qui vit en Allemagne, qui est une militante du Parti Socialiste, et qui est marxiste, et qui fait une analyse également de l'impérialisme tout à fait intéressant. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant de voir quelle est l'attitude des socialistes, d'une partie des socialistes, à l'égard de la conquête coloniale. Les socialistes qui sont, je dirais, fidèles à leurs principes et à la générosité de leur programme, à l'humanisme que contient le socialisme, d'un type comme Jaurès, par exemple, est fondamentalement anticolonialiste, très anticolonialiste, et beaucoup de socialistes sont anticolonialistes. Mais il y a, de la part de certains socialistes, une certaine neutralité bienveillante à l'égard du colonialisme. C'est ça aussi qui va être un des points de scission entre les deux grands courants du Parti Socialiste. C'est l'attitude à l'égard des colonies. Dans le Parti Social-Démocrate allemand, une bonne partie des dirigeants ne sont pas contre la politique d'expansion coloniale de l'Allemagne. Il y a une complaisance, on va dire, de certains. Hein. Bon, dans le Parti Radical, qui était le parti aussi à gauche, gauche bourgeoise, à cette époque-là en France, hein, le Parti Radical s'est rallié au colonialisme. Après quelques protestations dans les années 1870, les radicaux sont tous du Parti Colonial en 1914. Tous. Et, ma foi, certains éléments du Parti Socialiste sont influencés par ça, c'est évident. Et se compromettent gravement. Et la scission de 1920, ça va être aussi la scission à l'égard de la colonisation.
Socialistes peuvent se fourvoyer là-dedans, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la vision occidentale européenne est une vision raciste, avec l'homme blanc tout en haut d'une pyramide où tout en bas, il y a le nègre. Et que finalement, voilà, la conquête coloniale, un, c'est d'abord assurer des emplois à la métropole, et puis deux, apporter la lumière et l'humanisme à ces gens-là, qui sont que des sauvages attardés.
C'est vrai ce que tu dis, il y a une idéologie dominante, hein, qui est celle de la bourgeoisie au pouvoir, hein, qui développe cette idée de la hiérarchisation des races et puis de la civilisation occidentale par rapport à la barbarie des sauvages, etc. Mais le mouvement socialiste se veut en rupture avec cette idéologie. Et de fait, hein, dans les écrits des penseurs, des théoriciens socialistes, il y a une condamnation de la conquête coloniale et de l'impérialisme. Condamnation très nette, et d'ailleurs, ça, après le congrès de 1920, il va y avoir une lutte acharnée des communistes contre la colonisation, contre le colonialisme. La première grande bataille des communistes, ça va être la guerre du Rif, hein, 1926, je crois, contre l'intervention dans le Rif, etc. Il va quand même nous falloir nous poser la question des causes qui vont aboutir à ce congrès de Tours. Il faut revenir à la guerre. Ce n'est pas l'événement qui va créer la division. C'est l'événement qui va déclencher la division et qui va la rendre nette, sans bavure, deux courants, irréconciliables, en apparence, en tout cas au début. D'abord, pour commencer, bien sûr, les dangers de guerre sont avant, nous l'avons dit, au moins 10 ans avant la guerre, il y a déjà des bruits de bottes un peu partout, et puis on se s'arme, on se surarme, il y a la poudrière des Balkans, il y a le problème turc, le désir des différentes puissances coloniales, russes, allemands, etc., de s'emparer des dépouilles de l'Empire turc. et l'Angleterre. Et donc il y a tous ces conflits en puissance, où certains se sont déjà déclenchés, mais et qui vont se déclencher. Donc la guerre, elle est là, elle est à nos portes. Comment l'empêcher ? Alors, la majorité des congressistes, en tout cas des motions qui sont présentées, se déclarent bien sûr très hostiles à la guerre. Le courant pacifiste est majoritaire. Des motions sont votées, en 1907 en particulier, des motions sont votées pour déclarer grève générale en cas de guerre et lutte contre la mobilisation, crosse en l'air, etc. Il faut voir les paroles de l'International, le chant des ouvriers. Hein.
Les rois nous saoulaient de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crosse en l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux.
Crosse en l'air et on refuse d'aller à la guerre. On considère fort justement, hein, il suffit de le relire les textes de cette époque-là, que la guerre c'est un malheur pour les travailleurs, pour les ouvriers, que c'est une régression. Seule la réaction capitaliste la plus noire peut profiter d'une guerre. Mais la classe ouvrière, elle n'a rien à gagner dans une guerre. On n'a pas à choisir entre l'impérialisme allemand, l'impérialisme français, l'impérialisme anglais, etc. Ils sont renvoyés dos à dos. L'ennemi, c'est le capitalisme international et la classe ouvrière internationale, l'internationalisme prolétarien, doit se battre contre l'ensemble des directions bourgeoises, des gouvernements bourgeois, etc. C'est la position officielle jusqu'en 1914, qui est celle de l'Autriche, c'est-à-dire on va s'opposer à la guerre. Le problème, en fait, il y a un gros malentendu. En cas de guerre, où vont se ranger les socialistes français, où vont se ranger les socialistes allemands ? Les socialistes allemands se rangent du côté du gouvernement allemand.
Du côté de la guerre.
Mais oui, et votent les crédits de guerre. Y compris Liebknecht, Karl Liebknecht, à cette époque-là, il va bien sûr assez vite s'en repentir, et il va, l'année d'après, refuser les crédits de guerre. Mais en 1914, il vote les crédits de guerre. Tout le parti socialiste allemand vote les crédits de guerre et s'embarque dans l'aventure guerrière contre la France. Et contre bon, la Russie, et contre... Enfin bref, il les adopte un point de vue qui est un point de vue nationaliste. Quant au parti socialiste français... Voyant le parti socialiste allemand se ranger comme un seul homme derrière le Kaiser Guillaume, le parti socialiste français va en faire autant. Va considérer que la France est attaquée par l'Allemagne, agressée par l'Allemagne, que l'Allemagne porte la responsabilité de l'agression, de la guerre, et ça va être l'union sacrée. Le parti socialiste français, qui est puissant déjà hein, en 1914, va se ranger du côté de la bourgeoisie française, des partis bourgeois. Dans la guerre, ne s'oppose pas à la guerre. Effectivement, le premier ministre de la guerre, c'est Viviani, il y en a un autre, Albert Thomas, ce sont des socialistes, c'est-à-dire qu'ils vont aider à la production d'armement dans les meilleures conditions de paix sociale possible pour faire l'effort de guerre, car on considère que là, c'est la patrie qui est en danger. Là, les grandes idées de 1789 sont sans doute dévoyées, mais enfin, elles sont réutilisées, remises au jour. La France est attaquée par les puissances étrangères qui sont à nos frontières, on défend en même temps et la République et la France. L'idée républicaine, là, la République, elle sert à cette époque-là à faire une unité sociale, classe ouvrière, bourgeoisie, etc., contre l'ennemi commun qui est l'allemand. Les rares personnes très minoritaires qui auraient pu demander de déserter ou trucs comme ça, soit ils s'exilent, c'est Romain Rolland qui s'exile en Suisse, hein, et qui écrit un texte extrêmement remarquable qui s'appelle « Au-dessus de la mêlée ». Sinon, bah, pour les déserteurs ou pour les gens qui mettent la crosse en l'air, c'est le conseil de guerre, 12 balles dans la peau ou les forteresses, la prison. Bon. Et donc, il y a très peu de désertion, hein, très peu de refus, même si beaucoup de gens, beaucoup de paysans et d'ouvriers ont traîné les pattes avant d'aller à la guerre. Mais bon, on dit aux gens qu'elle va être courte. Courte, on va à Berlin, on les aura, hein, etc. Le problème, c'est que ça va durer 4 ans de guerre affreuse, atroce. Dès la première année, c'est déjà une boucherie. Fin de 1914 et le printemps 1915, il y a déjà une boucherie épouvantable. Ce sont les jours les plus meurtriers de la guerre. hein, la Marne, etc., la charge baïonnette au canon contre les mitrailleuses allemandes et sa boucherie invraisemblable. Donc très vite, il va naître une nécessité. Pour certains socialistes, il faut arrêter la boucherie, quoi. Il va y avoir deux conférences qui va réunir, bien sûr, un nombre faible de délégués socialistes, mais enfin, ce sont des conférences quand même internationales, même s'il n'y a que 10 ou 15 pays représentés. C'est en Suisse que ça va se passer. D'abord, à Zimmerwald, en septembre 1915, se réunit une conférence des socialistes, et là, il y a deux points de vue, en quelque sorte. Il y a un point de vue, c'est on arrête tout, on négocie, on fait une paix blanche, sans annexion, sans rien. On revient au départ. Et il y a déjà les bolcheviks présents à cette conférence disent « Mais non, il faut faire autre chose, il faut transformer cette guerre en guerre civile et en révolution. » C'est ce qu'ils vont faire en Russie. Hein. Bon, il va y avoir en avril 1916 une autre conférence à Kiental, en Suisse aussi. Ils vont discuter sur les moyens de faire quelque chose, d'autant qu'il y a parmi les gouvernements, en France par exemple, des gens qui seraient d'accord pour négocier et arrêter la boucherie, quoi. Mais ils vont pas l'emporter, ils vont être condamnés. C'est le parti Clémenceau, le parti jusqu'au boutiste qui va l'emporter. Donc là, ce qui va faire bouger les choses, ça se passe en Russie. En février du calendrier russe et mars de notre calendrier, il va y avoir la première révolution en Russie. Il va y avoir une révolution anti-tsariste. Le tsar abdique, c'est la chute du tsarisme. Et s'installe en Russie un gouvernement bourgeois, hein, un gouvernement de droite, mais qui continue la guerre, qui veut obtenir soit par la négociation, de meilleures conditions, etc. Mais bon, il continue la guerre. Et les problèmes, les énormes problèmes de la Russie en guerre et de la société russe persistent. L'armée russe a commencé à se désagréger. Des milliers de soldats, de moujiks reviennent chez eux avec leurs armes. Il commence à y avoir des désertions. Enfin, le gouvernement russe est incapable non seulement d'assurer la guerre elle-même, c'est-à-dire l'approvisionnement des troupes, les munitions, les trucs comme ça, envoie les gens au casse-pipe avec leurs bites et leurs couteaux, quoi, en quelque sorte. Et puis, également, ce gouvernement est incapable de chauffer, de donner du charbon, de donner du chauffage dans les villes, de donner du pain. C'est la misère, en quelque sorte. Chômage, misère, désorganisation complète de l'économie, désorganisation du front. Et ce sont des avancées allemandes considérables. L'armée russe est enfoncée complètement par l'armée allemande. D'abord, il est obligé de tenir aussi le front contre l'Autriche-Hongrie. C'est un désastre militaire. Et ce gouvernement s'obstine. Lénine revient en avril de son exil. Il est exilé. Et il va obtenir des Allemands trop contents d'envoyer un agitateur. Il va obtenir le passage de son wagon jusqu'à Saint-Pétersbourg. Là, il débarque, et voilà, il dit, voilà ce qu'il faut faire. Nous, on va faire la révolution. La révolution n'est pas faite. Hein. On a remplacé le gouvernement du tsar par un gouvernement bourgeois. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on va faire une vraie révolution. Et pour ça, nous allons proposer aux gens trois choses. La paix, le pain et la terre. Pour l'alliance avec la paysannerie, le pain parce que les gens crèvent de faim, etc. Et puis la paix parce qu'ils en ont marre de la guerre. Et la guerre, c'est fini, ils n'en veulent plus.
La paix, le pain, la terre. On évoquera d'immenses conséquences de la révolution russe de 1917 au prochain épisode de cette saga sur le congrès de Tours de 1920. Mais avant de se quitter, évoquons Jean Jaurès, authentique socialiste, héros du peuple, contre les exploiteurs capitalistes, contre le colonialisme, contre la guerre. Jaurès assassiné par un dénommé Vilain à la veille du déclenchement de la grande boucherie de 14-18, Vilain qui sera d'ailleurs très facilement acquitté dès 1919. Question, André, Jaurès aurait-il pu empêcher les socialistes français de foncer tête baissée dans la guerre aux côtés des bourgeois, la fleur soi-disant au fusil, comme le racontent les propagandes d'hier et d'aujourd'hui?
Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
au sein du Parti Socialiste, Jaurès était un adversaire résolu de cette guerre qui était annoncée comme une sorte d'obligation, de fatalité, etc. Mais est-ce que Jaurès aurait pu, s'il n'avait pas été assassiné, changer le cours des événements? On ne peut pas refaire l'histoire comme ça à l'envers. Il est possible que l'opposition de Jaurès n'aurait pas été suffisante pour empêcher les principales forces politiques et sociales d'accepter la guerre. Au sein même du Parti Socialiste Français, de la SFIO, il y avait tout un courant patriotard, nationaliste, etc. Le parallèle avec la Révolution française, avec l'invasion de 1792, était archi-exploité, pas seulement par la droite nationaliste et belliciste, mais aussi au sein même de la gauche, Parti radical, Parti socialiste. Certains faisaient le parallèle, comme en 1792, la France de la République, de la Révolution, des idées neuves, du progressisme, etc., était en prise avec l'obscurantisme aristocratique, etc. Il est vrai que l'Allemagne de 1914 est encore très largement un pays aristocratique, où l'armée est aux mains d'une classe de hobereaux, de nobles, de junkers prussiens, qui ont la guerre dans le sang, dans la tradition, etc. Et ça fait pas très démocratique. Et il est sûr que si on compare les institutions françaises avec le suffrage universel, on le compare avec l'Allemagne qui était encore un pays largement non démocratique. Il est sûr que la comparaison est au bénéfice de la France. Le prétexte invoqué, c'est l'engrenage après l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc. Un obscur mouvement nationaliste serbe provoque la déclaration de guerre de l'Autriche à la Serbie. La Serbie étant soutenue par l'Empire russe, des tsars, la Russie donc entre en guerre. La Russie a reçu de la part de la France, de Poincaré, les assurances que si la Russie part en guerre, la France suivra. On a jeté quand même de l'huile sur le feu. On a dit aux Russes, si vous partez en guerre contre l'Autriche, qui est alliée avec l'Allemagne, nous, on vous suit. À partir de ce moment-là, ce sont des accords diplomatiques, secrets, évidemment. On ne dit pas ça à l'opinion publique, mais bon, voilà, à partir du moment où l'Empire d'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, au petit État serbe, tout le monde rentre en guerre, quoi. Est-ce que c'était une nécessité de rentrer dans cette guerre énorme qui va être une monstruosité? Est-ce qu'on était obligé de rentrer en guerre à propos d'un assassinat d'un archiduc autrichien en Bosnie-Herzégovine? C'est démentiel. Alors bien sûr, Jaurès avait bien vu l'accumulation des forces militaires, des armements considérables. Il y avait des discours de Jaurès déjà dans les années 1890, dénonçant les bruits de bottes, les bruits de guerre, etc., et la logique impérialiste. Et tout en n'étant pas vraiment un marxiste orthodoxe, Jaurès faisait la liaison intime entre le système capitaliste et impérialiste qui dominait dans cette Europe de la fin du 19e siècle et la guerre. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Pour lui, bon, un système capitaliste avec ses inégalités, avec ses monstruosités, avec son profit, avec ses industries de guerre juteuses, avec ses conquêtes territoriales aussi, avec l'impérialisme, ça aboutit au risque de guerre, c'est évident. D'ailleurs, c'est exactement ce qui va se passer. Et donc, Jaurès va essayer de faire tout pour, à l'intérieur du Parti Socialiste, avec d'autres socialistes, d'ailleurs il n'est pas tout seul Jaurès, pour essayer d'enrayer le mécanisme. Il va y avoir d'ailleurs des congrès socialistes en Europe, en 1912, en 1913, etc., des congrès qui réunissent les partis socialistes européens, allemands, français, italiens, etc., mais surtout allemands et français, pour examiner comment pourrait-on empêcher la guerre. Le gros problème, c'est quand même qu'au sein du Parti Socialiste allemand, il y a une majorité de gens qui sont des nationalistes, qui soutiendront le régime allemand quel qu'il soit dans une guerre contre la France. Alors doit-on faire, nous, unilatéralement, la paix avec l'Allemagne qui nous fait la guerre? À partir du moment où la guerre est enclenchée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on demande aux soldats français de lever la crosse en l'air, de se mutiner, de déserter, de refuser la guerre, alors même que les soldats allemands, eux, très disciplinés, vont faire la guerre? La guerre a été facilitée par l'adhésion massive des socialistes allemands à la guerre. Alors les socialistes français, ils vont en faire autant. Puisque l'Allemagne nous fait la guerre et que le parti socialiste lui-même, représentant les travailleurs allemands, a abandonné l'idée d'une révolution mondiale et d'une subversion. Parce qu'en fait, quelle était la solution ? C'était celle qui sera préconisée plus tard par Lénine, c'est-à-dire, on fait la révolution chez nous, on fusille nos généraux et nos aristocrates et on fait la paix. Mais ça suppose, dans ces cas-là, de faire la révolution. Or, le parti socialiste allemand refuse, et une bonne partie du parti socialiste français aussi, refuse la solution révolutionnaire, qui était la seule possible pour arrêter la guerre. C'était, en fait, d'abattre les régimes impérialistes en Allemagne et en France. Puisque les partis socialistes et allemands et français refusent cette solution-là, on va à la guerre, quoi. Et c'est pas l'extraordinaire personnalité de Jaurès, la générosité, l'humanisme de Jaurès qui peuvent empêcher cette chose-là. Il y a une sorte de fatalité à partir du moment où on refuse de faire la révolution, c'est-à-dire de changer les régimes politiques dans ces pays-là, il y a la guerre, ça va avec.
C'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir aux champs d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître, et ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui notre bon maître, couvert de prêtres, oui notre monsieur.
Jaurès, certes, son assassinat permet aux socialistes français, en fin de compte, de s'aligner sur la politique de guerre du gouvernement français, de Poincaré, etc., sans avoir l'air trop de se désavouer. Un type comme Jouot, par exemple, un ponte du Parti Socialiste Français, va faire un discours, je crois, à l'enterrement de Jaurès, etc., rendre hommage au grand homme, etc., mais il s'aligne sur la position de guerre. Le Parti Socialiste Français, dans sa majorité, est réformiste. C'est le parti qui va éclater au congrès de Tours en 1920. Cette majorité opportuniste, en quelque sorte, du Parti Socialiste, va dans la guerre. Oui, on fait la guerre, on est des patriotes, on est des républicains, on fait la guerre du côté de la France, contre nos ennemis, etc. Des paroles de la Marseillaise retentissent, etc. Ce sang impur qui va abreuver nos sillons, etc., etc. Il y a bien sûr une petite minorité de gens au Parti Socialiste et à la CGT qui ont bien compris qu'on emmenait la classe ouvrière au massacre contre la classe ouvrière allemande, et que c'était une monstruosité, et que c'était en toute façon les travailleurs qui allaient être les victimes, principales victimes de cette guerre atroce. Bon, non, ça paraît peu probable que Jaurès ait pu empêcher cette guerre. D'ailleurs, il n'y a pas eu complot. Villain est un nationaliste fanatique. C'est un assassinat, c'est un acte isolé. Cela dit, il va être gracié. Villain, il fera pas de prison. C'est-à-dire que la République va quand même lui rendre hommage. T'as bien fait d'assassiner Jaurès, comme ça, on n'est plus emmerdé par cet emmerdeur-là. On peut aller en guerre, en quelque sorte. Au moment où la guerre éclate comme ça, il y a plein de choses qui vont s'effondrer dans la tête des gens, au Parti Socialiste, à la CGT, etc. Bon, c'est-à-dire qu'il va y avoir des remises en cause. On va en parler en 1920, d'autant que pendant cette guerre atroce, éclate la révolution russe, qui va aussi remettre les pendules à l'heure un petit peu. Enfin, faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez pas la guerre, faut faire la révolution. Vous pouvez pas avoir l'attentisme politique comme ça, une politique de réformiste modéré et une adhésion à une politique d'union nationale. Et vous avez la guerre avec. Ça marche ensemble. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix et avoir du courage politique. Ce que n'ont pas eu les socialistes français. Alors aujourd'hui, j'ai vu toute une série d'articles et d'ouvrages tendant à justifier cette attitude-là en disant « Oui, c'est normal, enfin, c'est impensable de faire la crosse en l'air. » Une révolution de type bolchevique était impensable en France. Inconcevable. Et puis on a eu la guerre. En quelque sorte, elle était fatale, cette guerre. En fait, rien n'est fatal, comme disait Romain Rolland dans sa lettre au-dessus de la mêlée, là. Et il dit, non, c'est pas inévitable. En fait, c'est ce que nous ne voulons pas assez. La paix aurait été possible, il aurait fallu la vouloir. Et d'ailleurs, Romain Rolland va adhérer au Parti communiste après la guerre. Il est très cohérent avec lui. Il a bien compris que la grande trahison, c'est les gens qui se sont ralliés à la guerre. L'Église catholique, le Parti socialiste, les grands mentors des idéologies humanistes, qui ont failli à leur tâche. Pour lui, il y a un jugement moral définitif. Hein. Le Parti socialiste, l'Église catholique, se sont assis sur leurs principes. D'ailleurs, aussi bien en France qu'en Allemagne, hein, il est aussi sévère à l'égard du Parti socialiste allemand que du Parti socialiste français. Ils sont très rares, les gens à l'époque qui... Les intellectuels s'engagent et beaucoup vont mourir à la guerre, dans les premiers mois de la guerre. Hein. Ils se font avoir par le discours patriotique, avec les rappels à la Révolution française, etc. Mais la situation n'est pas la même à la Révolution française. En même temps qu'on défend ses frontières, le territoire national, la patrie, on défend les valeurs de la Révolution française. Or, en 1914, on fait croire aux gens qu'en même temps que le territoire national, etc., on défend les idées de la République. Quelle République ? La République des anti-Dreyfusards ? Parce qu'en fin de compte, est-ce que notre armée, elle est plus démocratique que l'armée allemande ? Officiellement, oui. C'est une armée de la République, etc., etc. Et puis, il y a eu le procès en révision de Dreyfus. Etc. Mais on sait bien que la plupart des officiers de l'armée française sont des gens de droite, monarchistes.
Des nobliaux, des bourgeois.
Tout sauf le peuple. C'est pas une armée du peuple. Et d'ailleurs, Jaurès avait écrit un livre, je crois que c'est en 1912, pour changer l'armée, pour faire une véritable armée républicaine, une armée du peuple. Et non pas une armée de métier propre aux sales besognes coloniales, etc. Il y a une dénonciation de l'armée telle qu'elle existe par Jaurès et sa proposition de faire une véritable armée populaire de défense nationale et non pas une armée de conquête. Hein. Enfin bref, toujours est-il que ça a beau être mensonger, le discours qui est servi aux Français à cette époque-là, ça va marcher. Ça va marcher et les instituteurs ont, pendant des années, travaillé les enfants pour que, les fameux enfants de la République, pour qu'ils aiment leur patrie, mais aussi qu'ils aillent combattre les boches, hein, qui sont les vilains. Hein. Nous, on est les gentils, les autres sont les vilains, etc. Bon.
Enfant, regarde sur ces cartes ce point noir qu'il faut effacer. De tes petits doigts, tu l'écartes. En rouge, il vaut mieux le tracer. Plus tard, quoi que le sort te fasse, promets-moi bien d'aller là-bas chercher les enfants de l'Alsace qui nous tendent leurs petits bras. Puisse, en notre chère France, les rameaux verts de l'espérance fleurir par toi, mon cher enfant. Grandis, grandis, la France attend.
L'assassinat de Jaurès, c'est aussi l'échec aussi de cet enseignement républicain dans les petites écoles, etc. Tour de France par deux enfants, et toutes ces choses, etc. Tout ce discours patriotique, etc. Parce que, enfin, c'est pas un échec, c'est, ils ont gagné.
Ça va très bien marché, au contraire.
Ça a très bien marché. Mais en fait, c'est mensonger, quand même. C'est l'enfumage. Les valeurs que Jaurès aurait voulu voir enseigné par les instituteurs, c'est pas le patriotisme revanchard qui a été souvent celui des instituteurs avant 1914. Hein. Les fameux hussards de la République, etc. Il faut relire les Thibauds de Roger Martin Dugard. Il explique très très bien quel était l'état d'esprit des socialistes, des gens de gauche. À cette époque-là, au moment où on assassine Jaurès, hein, avant et après, je pense que c'est la meilleure lecture si on veut cerner la personnalité extraordinaire de Jaurès. Jaurès était un type, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'était pas un marxiste, c'est vrai, mais c'était un vrai communiste. C'est-à-dire qu'il était humaniste, alors il y a un fond chrétien, c'est un chrétien, Jaurès. C'est un croyant, il ne s'en cache pas. C'est un homme attaché à la laïcité, qui est une valeur républicaine fondamentale, mais c'est essentiellement un homme qui se bat pour les exploités. Tout son discours, toute son action, c'est de se mettre du côté de la classe ouvrière, du côté des travailleurs, des gens qui sont exploités, qui souffrent. Il est donc logiquement anticapitaliste, anti-bourgeois. Il est détesté, Jaurès, par la grande majorité des forces de droite qui sont au pouvoir, etc. C'est un homme qui est haï par la droite. Et puis qui se contente pas de faire des beaux discours pleins de grands principes, etc. Il se bat avec les ouvriers d'Alès, il se bat avec les ouvriers des Cévennes, mais aussi avec tous les autres ouvriers en France. Il est à tous les meetings et dans le Parti socialiste, il est une voix qui compte énormément. D'abord parce que il est directeur de l'Humanité, qui est le grand journal des socialistes, et dans les colonnes de l'Humanité s'exprime tous ceux qui mettent en cause la société de cette époque-là et qui rêvent d'une société meilleure, plus juste, plus équitable, sans exploitation de l'homme par l'homme, etc. C'est un socialiste. Je reste très conséquent. Alors bien sûr, c'est pas un léniniste, hein. Les partis communistes léninistes un peu sectaires de l'après-guerre peuvent pas se l'accaparer. Mais la SFIO non plus. Les socialistes réformistes non plus, parce qu'il allait jusqu'au bout de ses idées, Jaurès, contrairement à ces gens qui vont ensuite après participer à des gouvernements et faire des politiques qui sont pas conformes aux intérêts des travailleurs. Jaurès, non. Ses discours étaient tellement convaincants qu'il faisait des adhésions bien au-delà du cercle étroit des militants ouvriers, syndicalistes, etc. Il y avait beaucoup d'intellectuels à cette époque-là, soutenaient le Parti Socialiste grâce à Jaurès, à cause de Jaurès. C'était un homme comme il en faudrait aujourd'hui, quoi. Qui est le plus légitime pour revendiquer Jaurès ? Les socialistes réformistes, social-démocratie, qui va survivre au congrès de Tours, etc., ou les communistes, nouveau type de parti léniniste à l'exemple des bolcheviks russes. Bien sûr, on peut pas faire parler Jaurès mort. Est-ce que Jaurès aurait adhéré au modèle bolchevique imposé par les 21 conditions de la Troisième Internationale de Lénine, etc.? Est-ce que il aurait accepté ce type de fonctionnement? Rien n'est moins sûr. Cependant, les communistes semble quand même un peu plus légitime pour revendiquer Jaurès, parce qu'au moins dans les finalités, dans l'action, dans le sens de l'action, Jaurès se rapproche plus des communistes qui sont des défenseurs sincères et cohérents, conséquents de la classe ouvrière, alors que les réformistes vont petit à petit se transformer en petits partis de petits fonctionnaires de classe moyenne, etc. Réformistes et plutôt timides et très en retrait par rapport à l'idéal socialiste de départ. Si les communistes peuvent pas dire que Jaurès était un communiste, les socialistes peuvent difficilement aussi se l'accaparer. On imagine, dans le Front populaire, Jaurès à la place de Blum, je pense que ça aurait eu une autre gueule quand même, à mon avis, ça aurait eu une autre gueule que Blum qui fait une pause au bout de 6 mois en disant « ça y est, on a fait assez de réformes, ça suffit comme ça ». Il est difficilement classable, Jaurès, de toute façon. C'est un homme assez extraordinaire. Je vous conseille la biographie de Jaurès par Henri Guillemin, pour démontrer que Jaurès était un chrétien authentique, un chrétien social, quoi, un chrétien révolutionnaire, en quelque sorte. Il fait aussi un retour sur la laïcité. Au moment où il y a les lois de laïcité qui sont votées, et Jaurès ne s'y est pas opposé, il a adhéré totalement, il fait quand même une réserve. Parce que qui veut la laïcité et pourquoi ? Ce que dit Jaurès à cette époque-là, il dit qu'il faudrait pas que certains se réfugient dans l'anticléricalisme pour masquer leur timidité en matière économique et sociale. Il parle des radicaux à cette époque-là, ils sont très bouffe-curés, mais qui, par ailleurs, sont pour les guerres coloniales et ne sont pas du tout du côté des ouvriers. Il suffit de voir la répression du mouvement ouvrier par Clémenceau pour voir que, bon, l'anticléricalisme servait en quelque sorte d'alibi de gauche à un certain nombre de radicaux et de socialistes, dit « oui, je suis de gauche, vous voyez, je suis laïque, et je déteste les curés ». Pour Jaurès, ça suffit pas. Il ne suffit pas de dire qu'on est contre l'Église, contre les curés, contre les moines, contre les jésuites et tout. Ça ne dédouane pas ses positions en matière économique et sociale. On pourrait le dire aussi aujourd'hui, la même chose, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se réfugient derrière la laïcité pour dire, oui, je suis républicain parce que je suis laïque, mais qui sont dans le domaine économique et social si important, qui sont réactionnaires, purement réactionnaires, ou en tout cas de droite. Voilà. Et Jaurès n'était pas dupe de cette fausse gauche radicale qui n'avait plus que l'anticléricalisme pour se proclamer de gauche. Mais pour le reste, c'était la droite conservatrice. Modéré, centre-gauche, centre-droit, enfin, je suis de gauche, voici mes plumes, je suis de droite, voici mes poils. C'était comme ça, quoi. Donc, Jaurès était un homme d'une grande perspicacité politique, et surtout d'une grande rigueur morale. Ben, c'est une morale dans la politique. En ça, je crois qu'on peut pas ranger Jaurès dans le Parti Socialiste à cause de la rigueur morale.
C'est ici la fin du premier volet de notre saga autour du congrès de Tours de 1920, à réécouter sur notre site
polemix@lavoixoff.com. Avant de retrouver la suite de cette passionnante histoire au prochain épisode, sur cette même antenne, même lieu, même heure, ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut.
Radio G.